Il faut attacher la plus grande importance aux paroles des fous et des inconnus, à ces paroles qui sortent de nulle part. Elles portent souvent les réponses aux questions que l'on ne pose pas encore. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonsoir. 2 août 2006, Elon Musk présente son master plan. Il rêve de véhicules qui seraient écologiques et rouleraient sans l'aide du chauffeur. La scène internationale le regarde avec des yeux ronds. À quoi bon parler d'électricité quand le pétrole coule à flot, me direz-vous? Aux yeux de tous, il est pris pour un fou sans limite, un déjanté, un allumé. Sa marque se nomme Tesla. 26 janvier 2017, ce soir, les voitures électriques ou hybrides se mettent à coloniser l'asphalte. 2025 devrait sonner le glas des moteurs thermiques dans les pays nordiques. Aujourd'hui, rouler vert est un phénomène de société, comme manger local ou bio. Alors qui est fou? Le rêveur ou celui qui ne l'a pas compris? Peut-on limiter la personne du fou à celle qui vit incarcérée dans un asile? Le fou est-il seulement celui qui évolue en marge de la société, qui semble en décalage avec les réelles préoccupations de ses congénères? Certes, il existe plusieurs types de folie, et de nombreuses déviances doivent faire l'objet d'une thérapie ou nécessitent même parfois un isolement du sujet. Mais tout n'est pas affaire de maladie mentale. Il existe en effet des folies plus douces et plus constructives. Selon le sens commun, le fou est celui qui formule des propos allant au-delà de notre entendement, celui qui voit le monde à sa manière, celui qui diverge de la norme, s'en écarte. Ces traits caractéristiques, proches du cliché, servent également à décrire les artistes. Ceux-là aussi sont-ils fous? Prenons l'exemple de Van Gogh. Mal aimé, nous savons tous qu'il a eu une vie éprouvante. Les critiques de l'époque se moquaient, osons le mot, de son impressionnisme torturé et de ses toiles aux couleurs criardes. Ce fou de découverte picturale, ce fou tout court, atteint de schizophrénie, a influencé les fauves et les expressionnistes qui l'ont suivi. Artiste de la rue et artiste à la rue, il fait aujourd'hui l'objet d'expositions prestigieuses et ses œuvres s'arrachent à prix d'or chez Christie's et Sotheby's. Van Gogh illustre ainsi, avec tant d'autres, l'image de l'artiste incompris de son vivant, mais dont l'histoire de l'art fera un modèle des années plus tard. Leurs messages, leur style, leurs idées sont en avance sur leur temps. Souvent, la frontière entre folie et mégalomanie est ténue. De nombreux objets du quotidien sont en effet nés de rêves, d'utopies jugées farfelues. Quand Sergey Brin et Larry Page lancent leur moteur de recherche Google, personne ne se doute alors qu'ils sont les nouveaux Diderot et d'Alembert, mettant en service la déclinaison la plus aboutie de l'encyclopédie. De même, qui s'étonne encore du miracle de posséder un ordinateur portable tenant dans une mallette, d'y exploiter du contenu grâce à Windows, logiciel né dans la tête d'un jeune prodige du nom de Bill Gates, qui, croyant en ses chances, a tout de même monté sa première société à l'âge de 13 ans. Il abandonnera ses études 5 ans plus tard, une décision qui parut insensée à son entourage. C'est quasiment au même âge que Steve Jobs fonde Apple dans le garage de sa maison d'enfance. Sa société fait aujourd'hui partie des plus grandes capitalisations boursières de tous les temps. Le jargon informatique lui associe même une expression. Le champ de distorsion de la réalité. Autrement dit, l'effet que produisait Steve Jobs sur ceux qui le côtoyaient et qui leur faisaient voir le monde avec ses yeux. Décidément, si percevoir les choses d'une autre manière est sans doute l'apanage du fou, vous comprendrez aisément que c'est aussi celui du génie. Et que penser de Martin Cooper, dont la communauté scientifique s'est presque moquée lorsqu'il a déposé en 1973 le brevet de création d'un téléphone portable? Sa drôle d'invention, qui pesait alors près d'un kilo, est bien l'ancêtre des cellulaires de 100 grammes que nous avons tous mis sur silencieux il y a quelques minutes. Alors, pourquoi faut-il du temps aux idées neuves pour devenir crédibles? sans doute parce qu'au-delà d'être folles, elles émanent d'inconnus sans notoriété, qui doivent s'armer de patience pour se faire un nom. Il leur arrive donc fatalement de prêcher quelques années dans le désert. Quand les projets qu'ils façonnent concernent des besoins qui n'existent pas encore. Effectivement, le moment d'apparition d'une nouveauté influence inexorablement la compréhension de celle-ci. Si une idée manque de maturation ou voit le jour trop tôt, nous pouvons passer à côté de celle-ci. Et si elle arrive un rien en retard, on la trouve malheureusement déjà dépassée. Outre le message, la technologie ou l'œuvre créée, tout semble donc participer d'une question de timing. N'y aurait-il dès lors vraiment de vérité que celle qui arrive à point nommé? Pour reprendre la citation de Toby Nathan qui ouvrait mon exposé, bien souvent les évolutions de la pensée sortent de nulle part et viennent d'horizons variés. C'est ainsi qu'elles ne concernent pas que les progrès techniques, mais également d'autres aspects de notre culture, tels que notre mode de vie par exemple. Nous voyons de nombreux êtres humains taxés de fous, d'originaux, de marginaux, lorsqu'ils décident de vivre autrement, de s'exfiltrer de notre société complexe, hyperactive et exigeante. Je ne peux que vous conseiller de prendre quelques minutes de votre précieux temps pour lire « Dans les forêts de Sibérie » de Sylvain Tesson. Ce célèbre écrivain s'est isolé dans une cabane bordant le lac Baïkal en Sibérie durant 6 mois, avec pour objectif d'éprouver le temps qui passe en se rapprochant de la nature. Cette aventure étonnante donne lieu à un journal de voyage philosophique remettant en question notre sens des priorités dans un réquisitoire poignant contre notre système capitaliste. Vivre simplement, selon ses envies, découvrir si l'on a une vie intérieure peut nous faire passer pour un extraterrestre, mais permet aussi de se recentrer sur l'essentiel. Un proverbe espagnol stipule que le premier degré de la folie est de croire que l'on est sage. Cela indique donc que nous jugeons en permanence celui qui nous paraît étrange car il ne se conforme pas à notre vision du monde. Croyant détenir la vérité comme un grand sage, il nous arrive ainsi de qualifier d'invivable le quotidien de SDF, vagabonds ou des gens du voyage qui ont trouvé, certains l'affirment, un style de vie contraignant mais en accord avec leurs valeurs. Il est vrai que la nouveauté, souvent, fait peur. Peur de l'autre, peur de l'inconnu, peur de la différence. Les politiques, parfois, se nourrissent de notre allergie au changement. En France, notamment, Marine Le Pen l'a bien compris. À grands coups de pathos, le Front National engrange les succès électoraux en entretenant notre crainte du futur, en nous laissant imaginer que notre zone de confort subira un tas d'attaques de migrants qui s'organisent en bandes de malfaiteurs. Difficile à croire, objectivement, quand on voit nos prétendus ennemis traverser la mer sur des radeaux de fortune prenant l'eau de toutes parts. Au lieu de penser toujours dans l'immédiat, l'homme devrait songer à ces fameuses questions qui ne se posent pas encore. Surtout quand il se laisse séduire par le discours des magots d'une grande blonde ayant l'élégance d'un semi-remorque. En voyant à plus long terme, comme le font les fous, dont nous ignorons les propos visionnaires, il nous faudrait comprendre que ces politiques-là ne nous promettent jamais un avenir meilleur, mais se contentent de nous vendre un futur moins pire. Évitons donc d'adhérer aux discours alarmistes de fous dangereux, mais ne les ignorons pas pour autant. Donnons plutôt crédit aux paroles de fous créatifs, ceux qui construisent, inventent, rêvent un monde meilleur. Selon Montesquieu, la médiocrité est un garde-fou. Prenons donc un peu de hauteur, accueillons la différence avec tolérance et ne considérons pas comme insensé ce qui nous semblera peut-être évident demain. Merci de m'avoir écouté.
Vous avez parlé d'invention, je trouve un article du Soir ici, de l'année dernière. Pour éviter le désordre dans les classes, on a testé des bodycams, vous voyez ce que c'est, des appareils photo sur des professeurs qui leur permettent de photographier leur classe. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faudrait introduire cela chez nous?
À partir du moment où le rôle du professeur est d'enseigner, d'accompagner ses élèves dans une démarche pédagogique, tel un cheminement, quel serait alors, c'est la seule chose qui aujourd'hui, maintenant, tout de suite me vient à l'esprit, le besoin de l'épauler. Si à partir du moment où il a besoin d'une bodycam, comme vous dites, pour faire régner l'ordre, pour essayer d'éduquer ses élèves, tel en est son devoir, n'est-ce pas parce que c'est un aveu de faiblesse? Ne serait-ce pas un moyen de détourner la réalité? Qu'est-ce qu'un bon professeur aujourd'hui? Quelqu'un qui fait passer des idées, des bonnes, mais également quelqu'un qui arrive simplement à canaliser sa classe pour que tout le savoir qui le transmet puisse être compris par ceux-ci. C'est une chose de pouvoir distiller du savoir, mais savoir le faire comprendre à ses élèves en est une autre. Et l'un sans l'autre, ça ne marche pas. Merci de m'avoir écouté.